au bout du jour sur la première.
Et qui est votre invité ce soir, Eddy Kakelbergs?
Vincent Wagmann, historien de Projet Histoire, est avec nous. Il vient de sortir avec Pierre Muller, La famille Miliband, un demi-siècle dans les tumultes de l'Europe aux éditions Les mots pour le lire. La famille Miliband, celle qui, à travers un certain nombre de ses plus jeunes acteurs, se dispute la présidence ou les attributs du Parti travailliste britannique. La famille Miliband, qui est britannique par hasard, après être venue en souche de Pologne, traversant le nazisme jusqu'en Belgique, faite de fuites et de persécutions. La famille Miliband va nous permettre de revisiter avec Vincent Wagmann l'histoire européenne.
La première,
19h-20h,
au bout du jour,
Eddy Kakelbergs.
Bonsoir Vincent Wagmann.
Bonsoir.
On va parler d'une famille dont le nom n'est pas forcément inconnu, parce que Miliband, on a par exemple un Ed Miliband qui dans les années 70 jusqu'à il y a peu dans le monde du Parti travailliste britannique est un nom qui compte, mais c'est pas du tout de celui-là et de cette génération-là dont il est question ici par la famille Miliband. Vous nous ramenez bien des temps en arrière, mais c'est donc un nom de famille qui marque pour vous l'histoire européenne.
Oui, Ed Miliband que vous évoquiez et son frère aussi David Miliband ont effectivement été des ministres du Parti travailliste britannique sous Tony Blair et Gordon Brown. L'un des deux est d'ailleurs toujours actif dans la politique britannique. Et ce sont les petits-fils d'un des membres de la fratrie Miliband que j'ai décidé de suivre en m'appuyant sur l'intuition de mon excellent collègue Pierre Muller, et que j'ai décidé de suivre, de pister ce qui m'a conduit à finalement voir à travers le prisme de cette famille, de cette fratrie, de toute cette génération née au début du XXe siècle à Varsovie, dans un quartier juif assez pauvre de Varsovie, de suivre toute leur évolution, et ceci entre la première moitié et les deux premiers tiers du XXe siècle, et pour voir comme cette famille éclatée, les destins individuels au sein de cette famille permettent, quand on les suit, d'avoir une vision ramassée de grands moments de l'histoire de l'Europe, plus singulièrement de l'Europe occidentale, tout particulièrement dans l'après-1918 et jusqu'à l'après-Deuxième Guerre mondiale.
Et est-ce que l'on connaît l'origine de la famille ?
On a pu remonter un petit peu en faisant un petit exercice de généalogie. On est remonté vers des contrées qui ne sont pas si éloignées que ça de Varsovie. On en est effectivement dans des petits shtetls qui se développent tout simplement parce qu'on peut mieux valoriser la forêt environnante grâce à un petit commerce d'artisanat, ou parce que tout d'un coup on peut faire le commerce des oies qui était plus facile avant. Mais assez rapidement, cette famille, les descendants de cette famille, s'installe à Praga, un quartier classique juif de Varsovie. C'est un quartier extrêmement pauvre, et pour faire écho à ce que vous disiez sur toute une série de clichés ou d'images, si on veut définitivement entrer dans l'atmosphère de cette Varsovie de ce début de siècle, il faut reprendre quelques pages du prix Nobel de littérature Vaché Wissinger, qui a extrêmement bien dépeint, à travers quelques archétypes de personnages comme ça, tout ce petit monde grouillant dans les rues de Varsovie.
Cette famille Miliband, qu'est-ce qu'elle a de si particulier qui, dès le départ, retienne votre attention? C'est une autre manière de vous demander en clair, comment avez-vous démarré ce projet histoire qui vous amène à publier aujourd'hui?
D'abord, à titre personnel, il y a longtemps que je m'intéresse et que je me suis spécialisé dans l'évocation de familles juives qui, en général, sont originaires du Yiddishland, d'Europe orientale, et qui ont immigré en France, en Belgique, souvent après 1918, et pour lesquelles je retrace des parcours. C'est ainsi que j'avais été sollicité par le musée de la résistance silencieuse de Berlin, le musée qui est situé dans la cour même où le colonel von Stauffenberg, l'auteur du plus connu des attentats contre Hitler, a été fusillé. Ce musée m'avait sollicité pour retrouver toute une série de parcours de familles juives en Belgique qui avaient été victimes de la Shoah. Et parmi ces différents parcours, je me suis souvenu de cette suggestion que m'a faite mon collègue Pierre Muller à partir de la famille Miliband. Et j'ai commencé à creuser cette famille. C'est à ce moment-là que je me suis véritablement rendu compte de tout le potentiel représentatif que pouvait incarner cette famille. Et donc, à partir de ce moment-là, mais ça a vraiment été pister toute une fratrie, toute une série de frères et sœurs qui arrivent à Bruxelles, les uns après après les autres au lendemain de 1918, qui arrivent dans des conditions d'immigration, parfois pas toujours avec les papiers, dans un pays qui leur ouvre les bras sans être regardant, comme ça peut paraître très étonnant maintenant, par rapport à tous ces étrangers qui arrivent, et simplement parce que les conditions économiques le permettent. Il y a une reconstruction tambour battant de la Belgique après 1918, ce qui n'est pas le cas des autres anciens protagonistes de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a un besoin de bras, tout particulièrement dans les bassins industriels. Et pour la première fois, viennent de plus loin que les pays jouxtant la Belgique, viennent des Italiens, viennent aussi des Polonais, parmi ces Polonais, des Juifs.
On est dans une trajectoire de démembrement aussi, et donc de perte d'identité successive. Les familles juives sous les empires du centre à l'époque sont relativement peu considérées, sauf quelques grandes familles, sont victimes de pogroms dans ces régions-là, on le sait. Que ce soit l'empire tsariste ou que ce soit les empires austro-hongrois, voire le futur empire allemand, le statut des juifs est un statut particulier.
Le statut des juifs dans tous ces pays d'Europe orientale, dont les frontières d'ailleurs évoluent beaucoup, ce sont tous des communautés qui parlent yiddish, c'est pour ça qu'on parle aussi du yiddishland, même s'il est évidemment très très développé en Russie, en Pologne, en Roumanie, mais également dans les pays voisins. La condition juive est d'une manière générale effectivement extrêmement pénible, à tel point que tout particulièrement après le durcissement de la situation avec l'avènement d'un nouveau tsar, l'Europe orientale, d'une manière générale, par effet de ce qui se passe en Russie, va, durant le dernier tiers du 19e siècle, se vider d'une bonne partie de ces Juifs qui partent faire le grand rêve américain, qui s'entassent sur ces bateaux, qui arrivent à Ellis Island. Et après 1918, des nouvelles législations américaines referment les portes. Et d'une manière générale, beaucoup d'autres pays d'Amérique qui étaient également des destinations au même titre que les États-Unis, ferment leurs portes. Ce qui encourageait la recherche de nouvelles terres d'immigration, parce qu'on n'était pas plus heureux que ça en Pologne. On était encore moins dans les conditions dans lesquelles la Pologne renaît à la suite des accords diplomatiques du lendemain 1918. C'est la renaissance de la Pologne, qui suit dans un grand contexte antisémite. De nouveau, des Juifs vivent une très grande situation de pauvreté et cherchent à pouvoir quitter le pays. Les portes de l'Amérique se sont refermées. Et comme déjà parfois les étudiants victimes de numerus clausus venaient dans les universités occidentales faire des études, étant donné l'appel d'air, le besoin de main-d'œuvre, notamment dans les bassins industriels, d'autres populations arrivent. C'est le cas des frères Miliband, qui arrivent les uns après les autres, et à Paris et à Bruxelles, ils se retrouvent principalement à Bruxelles. Ils incarnent ce qu'on appelle la vie juive des Marolles dans l'entre-deux-guerres, et c'est là qu'ils vont développer leur commerce et leur artisanat. Ils travaillent évidemment dans le cuir, selon de bonnes vieilles traditions juives, dans la chapellerie aussi. D'autres membres de la famille sont à Paris, dans le milieu du 20e arrondissement, à proximité du Père Lachaise, Belleville, des endroits où progressivement vont naître le Front populaire à la fin des années 30. De même que du point de vue des Marolles, eh bien, on assiste évidemment à un véritable mise en place d'un véritable petit shtetl, vraiment un quartier juif avec ses enseignes, sa langue, ses pratiques traditionnelles véritablement importées d'Europe orientale, mais également à partir du moment où les effets de la crise de 1929, du crash boursier, commencent à se produire en Europe proprement dite, et donc au tournant des années 30, avec un certain pic vers 1932, on est alors là en pleine crise économique, et tous ces étrangers sont tout d'un coup vus tout à fait autrement sur fond de crise économique. D'autant plus que dans le cas des Miliband, qui étaient des travailleurs du cuir, ils ont développé véritablement par un savoir-faire, par des pratiques, par une manière de produire. Ils se sont devenus véritablement des concurrents en ouvrant leur production à un public qui, en général, ne pouvait pas avoir accès à ce genre de choses. Ce qui est tout particulier dans le cas de la famille Miliband, c'est qu'en général, ces gens visent en communauté, dont toujours davantage tendance à faire le gros dos, à se replier sur eux-mêmes quand les temps sont durs, surtout pour toutes ces générations habituées et habituées qu'on leur ait toujours enseigné les pogroms. Et à Bruxelles, dans une certaine mesure, ce que je dis est valable pour Paris aussi, on recrée cette situation du petit shtetl, mais la situation fait que, d'un pur point de vue de production économique chez ces artisans, il est de bon ton d'aller sur les marchés, toujours de plus en plus loin, pour écouler des produits. Et c'est comme ça que une certaine Rivka Steinhoff, l'épouse d'un Miliband, se retrouve à faire des marchés du côté de Soigny, la grand-mère des ministres britanniques dont on parlait. Elle se retrouve à faire des marchés du côté de Soigny, à sympathiser avec quelqu'un qui n'est absolument pas de son monde, qui est simplement une dame des environs, un endroit particulièrement agricole, une fermière, donc qui vient écouler les produits de la ferme. Elle s'appelle Louisa Voss. Et alors, à force de se recouvrir régulièrement les unes à côté des autres, chacune derrière leur étal, elles finissent par sympathiser. Et c'est là que c'est tout à fait étonnant et atypique par rapport à ce qu'on peut imaginer dans des relations entre étrangers et non-étrangers, entre gens du monde de la ville, gens du monde de la campagne, entre agriculteurs et artisans, entre gens de religions différentes. Il y a véritablement une grande sympathie qui naît, qui se construit entre les deux femmes, qui va rayonner sur l'ensemble de leurs familles respectives, et donc, au mépris des préjugés, des barrières sociales, de toute une série de freins ou de cloisons, les deux familles, Miliband et Voss, sont véritablement devenues des très grands amis, et ça, dès avant la guerre, dans tout ce contexte où tout le monde se referme et où il y a une grande montée de xénophobie en Belgique.
Pour une bonne part, ils ne sont pas forcément reçus ici comme des futurs Belges. Ce sont des gens coincés dans leurs identités.
Alors, ils sont de nationalité polonaise, même s'ils proviennent d'un État qui n'est pas particulièrement très amène à leur égard. C'est pour ça qu'ils le quittent. Ce sont donc des étrangers en Belgique. La plupart, c'est le cas des Miliband, mais c'est le cas de la plupart des milliers de Juifs arrivés dans les mêmes conditions en France et en Belgique, conservent leur nationalité, restent des étrangers. À une exception près, dans le cas de la famille Miliband, on peut y revenir parce qu'elle provoquera une petite différence au moment où la catastrophe va se produire. Donc, ils sont particulièrement l'objet d'un regard, même chez les Belges, assez réprobateur au moment où la crise économique...
Voire haineux,
teinté d'antisémitisme, même si ce n'est pas conscient ni direct, à part peut-être dans le discours de certains rexistes dans les années 30. Mais la situation de Juifs étrangers va par contre être plongée au moment de l'occupation allemande après 1940, au cœur d'une stratégie allemande pour, à moindre frais, sans devoir mobiliser trop d'hommes et en s'attachant à la collaboration de toute une série de services dont la Belgique, cette Belgique docile, comme on l'a évoqué, va permettre avec les étrangers de surfer, pour employer un terme plus récent, de surfer sur la xénophobie, un sentiment anti-étranger ambiant, pour pouvoir commencer à s'en prendre selon tout un processus bien, bien étudié qui va aboutir à ce que, bien avant les Juifs belges, la plupart des Juifs qui vivaient en Belgique et qui étaient justement des étrangers se sont retrouvés soit dans la situation de se cacher en espérant pouvoir rester cachés jusqu'au bout, soit se sont retrouvés conduits à la mort.
Le quartier des Marolles, ce petit shtetl, effectivement, est en 1942 l'objet d'une rafle terrible qui va amener à l'arrestation et à la déportation massive. On est encore, ces jours-ci, hein, à faire ressurgir la mémoire et les noms. Est-ce qu'effectivement, les Miliband vont s'inscrire dans ce drame et comment ?
Comme toujours, il y a des tendances plus générales, plus collectives, et puis il y a des destinées particulières qui interagissent avec ces tendances générales. Y compris dans le cas des rafles. Il y a quelques particularités sur le plan des Miliband, je les évoque en un instant. Remettons les rafles dans leur contexte. À partir de 1942, le port de l'étoile jaune est obligatoire, est imposé aux Juifs en Belgique. Ils ont déjà été recensés à plusieurs reprises, ils sont bien identifiés. L'idée est de les écarter progressivement de toute vie belge, y compris de tout ce qui va leur permettre de tirer de revenus, d'être soignés, d'être scolarisés, etc. À partir du moment où l'étoile jaune est instaurée, c'est en fait le signal de la déportation. Pour commencer à déporter les Juifs en Belgique, les autorités allemandes, militaires d'occupation et bien évidemment la police, la Gestapo, les CES qui sont derrière, créent un piège qui consiste à convoquer des gens dans un centre de rassemblement qui est en fait la caserne d'Ossin à Malines.
Pour partir travailler.
Pour une réinstallation, sans autre précision, à l'Est. Les malheureux qui répondent à leur première convocation durant les premiers convois, et là on se retrouve à ce moment-là en plein été 42, sont en fait directement mis dans des trains pour Auschwitz. C'est en fait la déportation qui est en route, qui est organisée, même chose en France.
Le fameux pitchy poi que l'on évoque si souvent.
Exactement, exactement. Et voyant très vite que ces convocations ne marchent plus, on décide de rafler. Il y a des rafles à Anvers, à Liège, à Bruxelles, à Charleroi. Dans le cas de Charleroi, la rafle est totalement conjurée. Mais à Bruxelles, il y a plusieurs rafles successives. Bien évidemment, dans le quartier du Midi, qui est un quartier de forte implantation juive. Et en ce qui concerne la famille Miliband, soit certains se cachaient déjà, soit ils ont échappé à la rafle. Mais tout cela, évidemment, est extrêmement surprenant. Il faut se réadapter à la seconde. On ne décide pas tout d'un coup, après mûre réflexion, de basculer de façon très prévue dans la clandestinité. Et donc, il y a des membres de la famille Miliband qui, tout d'un coup, changent de domicile, se cachent, ne savent pas s'ils vont oser pouvoir rentrer chez eux, après ces coups de filet policiers, avec notamment des SS flamands, d'ailleurs. Et donc, certains reviennent ou tentent de revenir chez eux, parfois retirer des effets, parce qu'on avait planqué un peu d'argent et qu'il faut vivre. Et plusieurs vont se faire attraper comme ça et finiront à Auschwitz. Il a été possible, on l'évoque dans le livre, de reconstituer tout le parcours jusqu'à vraiment la dernière minute à Auschwitz, parce que dans le cas de certains membres de la famille Miliband, pour ce qui est des archives encore retrouvées, disponibles, exploitables à Auschwitz, ils étaient concernés.
Dans ce contexte, c'est une fratrie assez forte hein, qui quitte en fait la Pologne et arrive, vous l'avez dit, vers Bruxelles et Paris. On imagine aussi que l'une des préoccupations, c'est d'avoir des enfants. Est-ce que on peut parler de cette nouvelle génération de Miliband qui naît dans ces années-là?
Ce sont des jeunes ménages qui arrivent. Et donc, deux petites générations d'enfants dans l'immédiate après 1918, jusque vers la fin des années 30. Cette nouvelle génération Miliband, ce sont des enfants sur qui repose beaucoup d'espoir. Et ce sont des enfants aussi pour qui on imagine beaucoup de bonheur, puisque on est dans un endroit où on peut sortir de la pauvreté, gagner raisonnablement sa vie, pouvoir continuer à exercer en général sans trop avoir à souffrir de la population autochtone, continuer à exercer des métiers qui sont des métiers traditionnels juifs. Donc, en principe, tout va pour le mieux. C'est une émigration réussie. Évidemment, pour ces jeunes générations qui sont là, c'est le seul espoir très vite qui va devenir possible, c'est d'être un enfant caché et dans une cache à succès. C'est-à-dire une cache où on peut tenir jusqu'à la fin de la guerre. Pour les autres, il y a plusieurs enfants ou adolescents de la fratrie Miliband qui finiront malheureusement à Auschwitz et dans leur cas, même pas en étant sélectionnés pour le travail, qui descendront du train et seront quasiment immédiatement dans la chambre à gaz.
Pour la branche parisienne, qu'advient-il?
Pour la branche parisienne, c'est d'une manière générale le même phénomène, à savoir que on veut connaître, identifier, relever, recenser les Juifs et puis progressivement les priver de leur liberté, de leur travail, de leurs ressources, les faire travailler comme forçats et puis finalement les supprimer. C'est tout l'engrenage général de la Shoah. Le processus est identique en France, d'ailleurs surtout que les Miliband sont dans la partie de France occupée, donc le grand responsable allemand Daneker, l'équivalent de son homologue belge, se retrouve régulièrement, notamment au début d'été 42 à Berlin, chez Eichmann, pour coordonner l'ensemble des opérations. On prend davantage les devants parfois en France parce que même si c'est la France occupée, il y a la coexistence avec le régime de Vichy qui est à tout le moins enthousiaste dans toute cette persécution antisémite, surtout à l'égard de Juifs étrangers. Et en France, il y a une rafle qu'on vient de commémorer très récemment, la rafle du billet vert, dans laquelle tombe un des frères Miliband. Et puis il y a évidemment la rafle du Veldif, beaucoup plus connue, dans laquelle tombe une belle-sœur Miliband. Et finalement, la plupart des Miliband réfugiés à Paris vont finir également déportés à Auschwitz, à l'exception d'une petite fille qui a pu, dans un concours de circonstances tout à fait exceptionnel, alors qu'elle s'est elle-même dénoncée aux autorités, à des gendarmes français qui la cherchait pour épargner ceux qui la cachaient. À l'exception d'une petite fille, ben on raconte ça dans le livre, c'est difficile à raconter ça en détail ici, qui a pu malgré tout sortir vivante. Il faut savoir que pour tous ces jeunes gens de cette génération qui sortent, pour ceux qui ont pu sortir à l'air libre, si j'ose dire, à partir de la libération pour eux n'est pas, ne correspond absolument pas à ces images de liesse collective.
C'est la catastrophe au contraire.
C'est en fait l'attente. Parce qu'on refuse de croire ce qu'on entend, et puis on doit se rendre à l'évidence, et puis on doit vivre de manière totalement parfois séparée, seule, isolée, orpheline. On oublie parfois, on a pu le montrer dans nos recherches, la Shoah continue à tuer après la libération et après la capitulation allemande. Et donc il y a des gens qui se retrouvent tout d'un coup dans des appartements vides, c'est le cas de certains membres de la famille, qui se retrouvent dans des appartements vides, qui dépérissent et qui perdent la vie simplement parce que c'est devenu insoutenable. Tout leur projet de vie s'est écroulé. Il y a des enfants qui ont du mal de s'en tirer aussi sans leurs parents. Donc, pour les Juifs sauvés, la libération est tout sauf une délivrance.
Pour ce qui est de faire le lien entre l'issue de la guerre et ceux que l'on évoquait il y a un instant en tête d'émission, hein, Ed et David Miliband, ces ministres qui se sont d'ailleurs un peu disputés la oui. présidence du Parti travailliste, pour partir en gros, comme le titrait récemment encore Le Vif à votre propos, de Montigny-les-Lances à Londres, qu'est-ce qui à un certain moment va faire qu'une partie de la famille se dit, une partie des survivants et survivantes se dit stop, Belgique est France.
Comment se fait-il qu'il y ait un ancrage londonien?
Ouais,
on peut peut-être poser
difficile.
La question comme ça. Alors évidemment, ça ne s'est jamais fait de façon organisée, consciente, planifiée. Lorsque les Allemands envahissent la Belgique, 10 mai 40, parmi les différents frères Miliband, l'un d'entre eux, qui a deux enfants, un garçon prénommé Adolphe, mais qui va rapidement changer son prénom et se faire appeler Ralph, et une petite sœur, Anna. Il décide avec son épouse que Anna est trop petite pour partir s'enfuir sur les routes de France. On est en plein moment de l'exode de 1940 et se dit « Je vais d'abord aller voir à Paris ce qu'il sera possible de faire. Je prends juste mon fils avec moi qui a l'âge tout doucement d'ailleurs d'être mobilisé et qui pourrait devenir quelqu'un qui inquiéterait d'autant plus les Allemands. » C'est comme ça qu'on le ressent. Mais l'avance est tellement rapide, ils sont surpris le lendemain de leur départ de Bruxelles. Bruxelles est déjà tombée. In extremis, ils décident de joindre Ostende. In extremis, ils parviennent à monter sur le dernier des bateaux de la marine belge à partir à Londres. Ils accostent à Folkestone et donc se retrouvent tous les deux pendant toute la durée de la guerre en Angleterre. Celui qui ne s'appelle plus du tout Adolf, mais qui s'appelle Ralph, fait des études. Il deviendra un penseur, un intellectuel marxiste très coté. Et il sera tout à fait à contre-courant de ce qu'on peut imaginer dans l'ambiance de mobilisation militaire anglaise de 1940. Toujours est-il qu'il s'engage dans la Royal Navy. À la libération, son père décide de revenir créer sa petite boutique dans les Marolles de travailleurs du cuir. Il y a un chassé-croisé entre les autorités britanniques et les autorités belges, où finalement il n'y a plus véritablement d'endroit où aller. Son fils parvient à faire peser dans la balance une intervention décisive qui fait que la famille va complètement s'installer en Angleterre. La famille s'installe en Angleterre. Ralph Miliband y poursuit ses études, devient ce grand penseur marxiste très coté. Il a deux fils, Ed et David, alors qu'ils effectivement deviennent des militants puis des mandataires travaillistes, qui se disputent à un moment donné la présidence du parti travailliste. L'un d'eux est toujours membre du shadow cabinet actuel du parti travailliste et donc serait amené, je parle de Ed Edouard, il serait amené à devenir ministre si les travaillistes revenaient au pouvoir, selon toute vraisemblance du moins. Son frère a décidé de quitter la politique. Il dirige à New York une très grande agence qui s'occupe de réfugiés et régulièrement, pour marquer sa véritable vocation à l'égard de l'aide aux réfugiés, fait état de l'histoire de sa propre famille et de même que son frère, quand il est question d'antisémitisme, fait régulièrement état du sauvetage de sa maman et de sa sœur dans ce petit village de Montigny-les-Lens.
Parce que effectivement, la maman et la sœur qui, elles, n'étaient pas sur les routes vers Paris pour aller voir, sont surprises par la chute de Bruxelles et doivent vivre leur guerre particulière.
Elles vivent sous l'occupation jusqu'au moment où, au tournant de 1942, comme je l'ai déjà expliqué, les convocations tombent. Il va falloir d'une manière ou d'une autre basculer dans la clandestinité. Ça, c'est la tendance générale. Dans leur cas plus particulier, la Gestapo vient de se rendre compte qu'il y avait des échanges épistolaires en principe officiellement avec la Suisse, en fait de manière indirecte avec l'Angleterre. On les convoque, on les laisse sortir parce que la rafle se prépare. Avec un excellent réflexe, elle file chez sa grande amie de toujours de la région de Lens. Madame et c'est Voss. Comme ça qu'elles seront cachées à Lens par ce couple Louisa et Maurice Voss qui sont véritablement des justes parmi les nations. Ils devraient d'ailleurs avoir cette reconnaissance, elle ne serait pas du tout usurpée. Et ils vont faire en sorte aussi, ces bienfaiteurs les Voss, que d'autres membres de la fratrie qui tout d'un coup se retrouvent victimes d'une rafle ou bien quelqu'un s'est fait arrêter, etc., puissent aussi être reçus, hébergés, cachés, parfois sous des fausses identités à Lens.
C'est véritablement une fresque, ce que nous venons d'esquisser à peine, hein, qui se trouve en détail, mais c'est une fresque de ces drames européens, hein, successifs.
C'est une fresque de ces drames européens, c'est une fresque de systèmes politiques affreux au pouvoir, comme dans l'exemple des nazis. C'est un monde de l'immigration, c'est un monde aussi de l'assimilation, de la non-assimilation. C'est aussi
du refus d'accueil.
Du refus d'accueil. C'est en même temps un monde où on voit que, contrairement à toute une série de différences, de divergences, de ce qui pourrait être des cloisonnements, il y a parfois des gens qui, quels que soient leurs horizons philosophiques ou humains, qui ont, je pense tout particulièrement à Louisa Voss, qui n'a fait qu'écouter la voix de sa conscience, toute catholique qu'elle était, et au mépris de tout ce qu'on aurait pu dire chez ses repères habituels, pour se dire, voilà, j'ai une amie, c'est insoutenable ce qu'on leur fait, je les aide, et je n'écoute personne pour ça, et mon mari est mon complice, et voilà. Et je vais même faire taire tout le village pour que finalement on puisse héberger jusqu'à près d'une quinzaine de personnes dans le village.
Merci Vincent Wagmann de nous avoir ramené sommairement, j'en ai conscience, mais les grands traits et surtout les grandes leçons pour aujourd'hui, parce qu'évidemment, immigration, refus d'accueil ou accueil, courage ou lâcheté, tout ça fait encore partie de la fresque actuelle et les frontières et l'Europe restent une question cruciale.
Oui, de ce point de vue-là, on voit, même si le contexte évidemment est beaucoup moins tragique qu'à l'époque, on aurait pu aussi évoquer le cas de cette membre de la fratrie Miliband qui est Kobe humain et qui parviendra à revenir. C'est d'ailleurs aussi un cas qui montre bien que la Shoah fait encore beaucoup souffrir jusqu'à l'heure actuelle. Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, avec un contexte actuel qui n'est pas le contexte d'une Europe en guerre, on voit malgré tout la difficulté des gens qui doivent, pour toute une série de raisons, tout quitter. Ceux qui peuvent être aidés, ceux qui ne peuvent pas l'être, la manière dont s'organise aussi, parfois de manière très pratique, l'immigration, parce qu'il y a l'immigration, il y a le refuge. Simplement, l'immigration aussi, avec des bonnes vieilles techniques qu'on a pu observer dans le cas des Miliband et de tous leurs homologues. Ce serait le même, par exemple, pour des Italiens qui sont arrivés à la même époque, je parle de la première vague d'arrivée des Italiens après 1918, et ce qu'on constate maintenant sur la manière de se regrouper, de s'organiser, de se refiler les bons tuyaux, de faire appel aux mêmes bonnes organisations, les modalités sur ce plan-là, quels que soient les contextes un peu différents, on ne s'envoie pas directement des bons plans par WhatsApp à l'époque, mais sinon, du point de vue général, les techniques informelles pour s'intégrer ou faire son trou, parvenir à reprendre pied dans un nouveau pays sont les mêmes.
Merci pour cette mise en perspective, ce livre, donc La famille Miliband, un demi-siècle dans les tumultes de l'Europe, édition Les mots pour le lire. En fait, on trouve tout via ce fameux projet histoire que vous animez.
Oui, il suffit d'aller sur le site projethistoire.com et alors on trouvera toutes les informations sur le livre, y compris pour le recevoir chez soi.
Merci d'être venu au bout du jour.
Au bout du jour sur la première,
Eddie Kackelberg.